Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure pour parler bande dessinée, pour parler 9e art et toujours avec un grand, grand, grand plaisir qu'on le fait. Évidemment, depuis déjà 11 ans que je radote ça à chaque début d'émission, mais c'est vrai. Bien content d'être avec vous. Bien content d'être avec vous pour parler BD et également pour être un peu en mode rattrapage. Puisqu'en première partie d'émission, eh ben, on ira vers La conquête du cosmos, une bande dessinée d'Alexandre Fontaine-Rousseau et Francis Desharnais, qui est un peu, dans le fond, la suite de leurs premiers aviateurs, en termes conceptuels à tout le moins, un brin thématique aussi, et qui, tout ça, était un peu la suite en matière conceptuelle de La guerre des arts que nous avait offert Francis Desharnais il y a déjà quelques années. Alors, ben, j'ai vu cette BD-là sur ma pile et je me suis dit, ben, pourquoi je n'en ai pas encore parlé? Alors, ben, voilà qui sera fait. On va aller explorer un peu tout ça avec les auteurs et essayer de voir ben, de quelle manière ils continuent de développer ce concept de cases répétées, si on peut dire, et de l'adapter aussi à différentes réalités en s'amusant avec les pourtours de l'histoire. Alors, donc, ça sera la première moitié. En deuxième moitié, ben, c'est un rendez-vous mensuel qui se poursuit. Stéphane Gravel qui sera avec nous pour son mois en BD. Alors, on verra un peu qu'est-ce qu'il retourne de son côté, quelle lecture il a faite, quel chemin il nous invitera à partager avec lui. Alors, c'est le menu principal pour cette semaine ici à La Vie en BD. Alors, on se met un peu en mode rattrapage. Rattrapage, pourquoi? Parce que je suis tombé sur cette BD dans ma pile de livres et je me suis dit, mon Dieu, je n'avais pas encore parlé à ces auteurs. Eh bien, ce sera fait puisqu'on va plonger maintenant dans l'univers de La conquête du cosmos, un livre qui est arrivé un peu plus tôt cette année du côté des éditions Pow Pow, un livre scénarisé par Alexandre Fontaine-Rousseau, dessiné par Francis Desharnais. Les deux auteurs sont avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ben, d'entrée de jeu, en fait, l'album s'inscrit dans la continuité du concept qui avait été imaginé d'ailleurs par Francis dans La guerre des arts. Ensuite, vous l'avez poursuivi, vous l'avez développé en duo dans les premiers aviateurs. Et là, 5 ans après cet opus, vous avez choisi de revenir vers ce concept-là. Qu'est-ce qui vous avait peut-être donné envie de poursuivre avec cette idée et ce type d'univers un peu statique de cases répétées, là?
Francis, tu peux y aller si tu veux.
OK. Bien, déjà, quand on avait fait les premiers aviateurs, presque tout de suite après la sortie, Alex avait déjà un peu l'idée qui avait envie de germer, là, de travailler sur la conquête du cosmos. Puis, peu de temps après, il y a Québec BD qui nous a invités à faire une exposition, à investir là, le Musée national des beaux-arts du Québec, surtout dans la partie ancienne prison. Et on a été invités à faire comme une espèce de petit parcours installatif où chaque cellule de prison deviendrait une case de bande dessinée. Puis au lieu de faire quelque chose à partir des premiers aviateurs, encore là, avec Alexandre, on s'est dit que ça serait peut-être plus nouveau, en fait. Ça serait plus rafraîchissant de faire de quoi de nouveau et d'aller vers la conquête du cosmos.
Oui, puis c'est drôle, en fait, parce qu'il y a quand même une bonne partie de la structure de base du livre qui s'est développée lors de cette exposition-là. Tant et si bien que quand on regarde le livre, je pense que l'espèce de division en deux segments, ça vient vraiment de la manière dont l'exposition avait été montée. Là, il y avait une première rangée de cellules qui racontait la conquête du cosmos de la perspective des Soviétiques. Puis après ça, on tournait le coin puis on faisait un peu à rebours l'histoire des Américains. Puis c'est sûr qu'en 5 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est pas le même projet que ce qui avait été élaboré il y a 5 ans. Puis c'est sûr qu'il y a des bases, en tout cas, c'est ça. Mais vraiment, c'est fou à quel point cette exposition-là, finalement, ça reste vraiment la base du projet. Puis quand j'y repense, je me dis... Il y a une bonne partie de ce que ce livre-là est devenu qui est à un point tel que en écrivant le livre, des fois, en travaillant sur le scénario, je me posais la question comment je vais adapter telle idée de l'exposition à un livre, alors qu'à la base, l'exposition avait été un peu conçue comme une sorte d'esquisse d'un livre potentiel. Fait qu'il y a vraiment quelque chose dans ce processus-là. T'sais, déjà, c'est inhabituel que Francis me fournisse des dessins puis que moi, Je travaille le scénario à partir de là. En plus de ça, faire un scénario qui est une adaptation d'une exposition qui était peut-être le début d'un scénario, je t'avoue que c'est peut-être l'histoire la plus torturée que je peux imaginer pour la genèse d'un projet.
Et peut-être je mentionnais le concept, en fait, j'aimerais faire un pas en arrière pour le rappeler, ça fait quand même 3 albums que c'est exploré. Donc l'idée, c'est un concept qui est basé sur un nombre limité de cases. Je pense dans le cas de la conquête du cosmos, il y en a à peu près 20. Et ces cases-là, bien, dans le fond, sont répétées dans un gaufrier fixe. Donc les cases se répètent, mais le dialogue, lui, change. Donc j'imagine, en fait, c'est d'entrée de juste un beau défi qu'on se donnait d'album en album avec un concept comme celui-là.
Oui, puis mine de rien, j'ai envie de dire que le concept se modifie aussi un peu. Parce qu'effectivement, mettons au niveau de la mise en scène, il n'y a pas beaucoup de changements d'une case à l'autre, au niveau, mettons, du déplacement de la caméra ou des trucs comme ça. Mais les lecteurs attentifs, je pense qu'ils peuvent quand même s'amuser à voir que, mettons, si dans les séquences où il y a des scientifiques russes, bien, on voit déjà plus les personnages et les personnages peuvent bouger la tête, parler ou... Donc, il y a quand même de petites modifications qui vont d'une case à l'autre, ce qui fait que c'est minimaliste, mais de moins en moins, j'ai envie de dire, mais toujours avec cette espèce de rigidité de mise en scène où, effectivement, la caméra est toujours au même endroit, puis les cases sont toujours de la même... les mêmes dimensions, mais c'est ça, il y a quand même des petits trucs qui... le concept évolue là, quand même là, d'un livre à l'autre.
Oui, je pense que c'est une forme de mise en scène à laquelle on s'habitue. Éventuellement, on finit par faire les trucs un peu de base avec ça, puis après ça, on se dit comment je pourrais repousser un peu les limites de cette espèce de cadre un peu rigide-là. Puis des fois aussi, c'est de se poser la question, bon, qu'est-ce qu'on a réussi à exprimer dans les livres précédents, puis qu'est-ce qu'on n'a pas encore réussi à exprimer? Puis j'y reviens souvent quand je parle de ce livre-là, mais pour moi, c'est encore une fois une comédie, c'est sûr, c'est assumé, mais je pense que les premiers aviateurs ce n'était qu'une comédie, même s'il y avait comme une ironie qui pouvait quand même devenir un peu tragique, là. Mais dans ce cas-là, dans le cas de la conquête du cosmos, il y a quand même des séquences où je personnellement, je le joue plus comme une blague nécessairement. Laika dans l'espace, tu sais, il y a des longues sections de silence à l'intérieur du livre où je pense au dernier chapitre aussi qui se déroule au Vietnam. Tu sais, pour moi, c'est comme... Il y a quand même une tentative d'aller exprimer des choses qu'à la limite, on n'avait même pas essayé d'exprimer dans les livres précédents avec cette espèce de drôle de distance-là. Elle est super intéressante, je trouve, cette mise en scène-là, parce qu'elle permet en même temps un espèce de regard, je pense que le regard un peu anthropologue ou quasiment entomologue de ces livres-là surtout dans les premiers aviateurs, je me rappelle de m'être fait la réflexion à un moment donné, tu sais, c'est comme les personnages, entre guillemets, avec lesquels je joue ont l'air des fourmis ou des insectes, tu sais, fait que ça permet de les déshumaniser juste assez en tant que scénariste pour avoir une perspective un petit peu plus distante puis peut-être un peu moins affective, mais je trouve que dans La conquête du cosmos, finalement, c'est déjà beaucoup plus des personnages, c'est beaucoup moins des petites fourmis.
Oui, puis en fait, à la limite même aussi, la présence, tu donnais l'exemple de Laika, bien, le fait de la voir en avant longtemps aussi, tu sais, on passe en fait d'un chapitre plus AA peut-être vers quelque chose d'un peu plus vers le malaise, à la limite vers d'autres types de sentiments, vers le tragique, tu disais aussi. Donc, dans le fond, j'imagine que c'est l'intérêt aussi de répéter le concept à plusieurs reprises, c'est qu'on peut le pousser plus loin. C'est qu'on peut se rendre compte que, ah, ben, il y a telle porte qu'on n'a pas explorée qui pourrait être intéressante. Et là, j'imagine qu'autant avec la base de l'expo qu'autant dans la création, ben, il y a un ping-pong qui s'installe entre Francis Dernay puis Alexandre Fontaine-Rousseau pour essayer de voir comment on pourrait pas refaire la même chose, mais faire autrement le concept, dans le fond.
Oui, je trouve que ça se fait de manière super organique. Là. Je ne veux pas parler pour Francis. Là. Peut-être que lui, il va dire que c'est un effort considérable à chaque fois de travailler avec cette personne, mais moi, je trouve que tu sais, c'est pas comme si on se posait ces questions-là de manière particulièrement explicite. C'est juste, je pense qu'on est tous les deux un peu à la même place. Encore une fois, là, peut-être que Francis va dire que je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'on était un peu à la même place par rapport à ce concept-là, à où est-ce qu'on voulait peut-être l'amener, puis ce qu'on avait l'impression d'avoir déjà fait. Puis je pense aussi que et moi et Francis, on n'a pas envie de faire deux fois le même livre là, dans notre vie. Là. Puis je pense que ça paraît, je veux dire, on est quand même tous les deux des auteurs qui, d'un livre à l'autre, on va faire des projets quand même assez radicalement différents. Là. Fait que T'sais, à la limite, je pense que je n'avais jamais fait, non, c'est pas vrai, il y avait les deux livres que j'avais fait avec François, qui étaient un petit peu comme sur le même modèle, mais c'est la première fois que je faisais vraiment deux livres aussi proches l'un de l'autre. T'sais, quelqu'un me dirait La conquête du cosmos, c'est la suite des premiers aviateurs, je serais obligé de lui dire oui.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alex, puis ce qui m'a quand même assez étonné et réjoui, c'est justement de voir qu'avec un procédé aussi strict, on était capable d'aller dans des zones plus tragiques, justement, plus tristes. Fait que ça, c'est des belles surprises quand ça arrive. T'sais. Je veux dire, ça aurait pu ne pas marcher. Et puis, ça aurait pu... Ces scènes-là auraient pu avoir la velléité d'être plus triste, mais qu'au final, ça soit drôle. Mais au final, l'émotion recherchée fonctionne. Donc c'est de quoi que j'aime beaucoup de ce livre-là, cette approche-là différente du minimalisme de la mise en scène.
Et comme on passe, parce que dans le fond, la plupart des chapitres, des éléments, il y a une, deux, il y a quelques vignettes, dans le fond, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est beaucoup basé sur la répétition. Et on parlait tantôt bon, qu'il y avait l'exposition qui est arrivée un peu au départ. Donc, le dessin, l'élément qui sera répété, est-ce qu'il s'impose assez rapidement ou est-ce qu'à un moment donné, c'est la scène qui arrive en premier puis après ça, on se dit, bon, OK, ça serait plus intéressant de la placer autour, par exemple, si on prend la séquence de départ, donc Spoutnik est dans l'espace, on voit le dialogue au loin, on suit le satellite. Donc, ces choix-là sont majeurs, sont cruciaux pour la perspective qu'on va avoir du récit. Et à quel moment ça se fixe, à quel moment ça se décide, dans le fond?
Bien, avant de commencer, que ce soit l'expo ou le livre, Alex et moi, on s'est quand même rencontrés justement pour un peu découper la chronologie de l'événement. Tu sais. Fait que je dirais qu'une des différences aussi avec les premiers aviateurs, c'est qu'on suit de plus près un petit peu la chronologie des événements. Et puis, il y a quand même des incontournables comme Spoutnik. Quand on parle de, mettons, la conquête de l'espace, ben faut que tu parles de Spoutnik, faut que tu parles de Laika, faut que tu parles de Yuri Gagarin. Après ça, ben, tu peux parler de John F. Kennedy, puis tu peux parler de Neil Armstrong, Aldrin, puis Michael Collins. Mais donc ça nous a un peu... dès le départ, donner une direction. Mais on s'est quand même rencontrés un peu avant pour établir quelles étapes ou quel tableau, j'ai envie de dire, de cette saga-là de la course à l'espace qu'on allait utiliser comme matériau.
C'est intéressant que Francis parle de la chronologie parce que c'est vrai que dans ce livre-là, contrairement aux premiers aviateurs, les premiers aviateurs, finalement, on peut vraiment le regarder puis se dire ces cinq scénettes vraiment distinctes l'une de l'autre. Je pense qu'on pourrait en lire une seule puis à l'exception de peut-être deux ou trois running gags qui traversent le livre, on pourrait les comprendre de manière totalement autonome l'une de l'autre. Je voulais un peu garder cette structure par fragments-là avec des ellipses quand même assez marquées à l'intérieur de la conquête du cosmos, mais je voulais aussi que ce soit un livre qui est plus cohérent sur le plan narratif, tu sais, où chaque séquence, chaque scène vient un peu construire sur ce qui s'est bâti dans la précédente, qu'il y ait un plus grand dialogue entre les sections. Là, c'est clairement un livre plus linéaire puis narratif, même s'il repose encore sur cette espèce de structure épisodique-là. Là. Puis je trouvais ça intéressant aussi. Je trouve ça intéressant de finalement raconter une histoire puis de pouvoir raconter une assez grande histoire en assez peu... tu sais, c'est comme... je trouve que le rapport... temporalité, effort déployé est quand même pas pire là, sur ce livre-là. Là. Puis je trouve ça intéressant de pouvoir couvrir une aussi grande période de temps que ça, autant d'événements que ça, avec aussi peu de moyens.
Puis en même temps, justement, les moyens comme tels donnent aussi, j'imagine, orientent la manière dont on va les traiter, parce que dans le fond du moment, puis c'est de la façon dont je l'imagine presque, mais il y a presque un code morse un peu là-dedans, dans le rythme qu'on décide de donner au dialogue, comme le rythme des cases est très, très précis, très, très rigoureux. Ben dans le fond, le fait de choisir de mettre tel bout de phrase dans une case, tel autre bout dans une autre phrase, ça nécessairement, ça devient un choix rythmique, un choix presque musical, entre guillemets, et dans lequel aussi les silences ont un impact qui est majeur. Donc, il y a presque un côté rythmique, j'ai l'impression, à ce processus-là. Je ne sais pas.
Totalement. Puis, tu sais, je pense que toute personne qui a fait du découpage de bande dessinée dans sa vie ou qui a pensé en termes de découpage de bande dessinée s'est posé la question de comment est-ce que je peux contrôler d'une certaine manière le rythme de lecture. Puis, il n'y a pas de réponse absolue à ça, mais je pense que dans le cas de ce dispositif-là, ça permet quelque chose vraiment. Tu sais, ça permet de travailler ça, de penser ça, puis quand même d'aller guider un peu le rythme de lecture. C'est sûr que je peux pas définir c'est quoi un silence pour chaque lecteur, mais déjà, il va le sentir, puis il va être obligé de le faire. Puis aussi, je pense que paradoxalement, il y a aussi je pense que le fait qu'on n'ait pas à s'installer puis à lire chaque case fait aussi que les répliques peuvent être lues comme tac, 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 tac. Vraiment, c'est vrai que c'est une forme qui permet vraiment de travailler la rythmique. Puis c'est quelque chose qui était déjà là dans La Guerre des Arts, j'ai l'impression. Puis j'ai l'impression que ça vient un peu du background d'animation à Francis, cette espèce de recherche-là. Là.
Ben oui, probablement. Mais ça vient, comme tu disais, ça vient beaucoup de la difficulté à gérer le rythme de lecture parce que moi, je me considère comme un mauvais lecteur dans le sens où je ne suis pas là à m'attarder sur chaque case. Quand j'ai une bande dessinée, je ne m'attarde pas à chaque case à regarder la beauté du dessin. Je lis un peu comme j'écoute un film, c'est-à-dire je veux que ça coule, je veux pas perdre de temps, je veux pas briser le rythme qui est là, tu sais. Sauf que ça fait que justement, des fois, c'est ça, comme créateur, ben, des fois, tu dis, il y a une frustration qui peut venir de ça parce que tu dis, ah, tu sais, je vais passer une semaine sur cette case-là, puis elle va se lire anyway en 2 secondes. Donc, d'aller avec un dispositif comme ça, ben, ça impose de dire, même si tu lis vite, cher lecteur, là, au moins, tu n'as pas le choix de prendre conscience que le temps se déroule. Tu sais. Puis je trouve que c'est plus efficace parce que des fois, on entend des trucs de théorie de la bande dessinée que ah, ben, si tu fais un grand dessin, ben, c'est comme si le temps passait plus vite. Puis je ne sais pas, moi, je vois.
C'est clair, c'est de la bullshit, c'est ça.
Moi, c'est comme, ouais, ben, peut-être un peu, là, mais tu sais, rajoute 0,5 secondes de lecture, ça ne fait pas que le temps passe tant que ça, tu sais. Tandis que dans comme dans les livres qu'on a fait avec Alex, ben, si on met plusieurs fois la même case, le lecteur, même s'il passe vite sur chaque case, il n'a pas le choix de réaliser que le temps passe. Mais bref, ça c'est vraiment peut-être juste dans ma tête, là, je ne sais pas.
Non, mais je pense que ça appuie super bien. Tu sais, un changement va avoir un impact. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans ça qui recentre l'attention sur quelques éléments spécifiques. Puis ça, je trouve que c'est quand même intéressant dans la mesure où je pense que des fois, autant j'adore le dessin détaillé, je trouve que c'est le fun de créer un dessin qui dirige vraiment l'attention. Tu sais. Puis je pense que de temps en temps, il y a de la bande dessinée qui prêche par excès de détails, qui devient presque illisible ou qui, en tout cas, dont le dessin n'appuie plus une logique de lecture, tu sais, qui devient quasiment de la picturale pour être picturale. Puis je ne pense pas nécessairement que ça fait la meilleure des bandes dessinées au monde. Je trouve que ça fait même des trucs qui sont un peu, dont la densité devient un peu dure à déchiffrer, puis en fait, même plus penser comme une logique de lecture, tandis que là, on est vraiment dans quelque chose de schématique qui est très fonctionnel. Tu sais.
Et qui est fonctionnel, mais qui en même temps doit être ambiant, parce que je veux dire, la case, je vais la voir quand même beaucoup de fois, et en même temps, cette case-là, répétée 9-10 fois, me donne la planche au complet. Donc, si je fais mal mon choix de perspective, si je fais mal mon choix d'ambiance, ben, nécessairement, ça va perméabiliser aussi l'expérience de lecture parce que la première fois qu'on voit, qu'on découvre la case, c'est dans un foisonnement. Tu regardes la planche en premier, après ça, oups, OK, je vais m'attarder à ce qui est dit. Puis là, peut-être prendre conscience des mouvements plus discrets dont auxquels Francis fait allusion tantôt. Mais donc, j'imagine que ça devient aussi d'autant crucial à la fois pour choisir les bons mots puis le bon rythme des mots. Puis à la fois d'avoir choisi la bonne illustration, la bonne case, dans le fond, pour les accompagner. Puis on ne se donne pas beaucoup de place à l'erreur dans un procédé comme ça, j'ai l'impression.
Non, c'est clair. C'est clair que chaque décision a un impact. Je pense que c'est le genre de livre où, tu sais, quand on parlait des cases de silence, là, tu te demandes vraiment où les placer, tu sais, puis tu les déplaces, puis tu te rends compte que ça change tout. Des fois, après ça, au moment d'écrire le scénario, tu pensais que c'était une disposition pas pire. Là, finalement, tu vois la planche, tu te poses la question. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est subtilement off, mais qu'est-ce que c'est? Finalement, je pense qu'à chaque fois qu'on fait un de ces livres minimalistes-là, on commence en se disant on vient de se couper une grosse partie de la job. Puis finalement, quand même, sur le petit travail du détail, on finit par se faire, tu sais, le diable est dans les détails, comme ils disent. Là, puis je pense qu'il peut être vraiment là longtemps.
Oui, c'est des livres qu'on travaille dans la minutie là, vraiment beaucoup. Exact, comme dit Alex, là, à chaque fois, on pense que ça va être une petite marche dans le parc, puis finalement, c'est ça, tu sais, chaque détail devient important parce que s'il y a un détail qui accroche à un moment donné, ben, ton effet, il ne fonctionne plus. Donc, il faut que tout soit sur la proverbiale coche, là, comme on dit, là.
Et puis, dans le fond, les choix, mettons, aussi donnent un peu le ton de l'album. Si on prend la séquence au départ avec Spoutnik, l'entrée de jeu, j'imagine le choix de placer justement le satellite de l'avant, la conversation un peu plus éloignée, mais ça nous amène vers ce sujet-là, vers ces thématiques-là, ça nous centre vers l'objet, dans le contexte où il y a un dialogue qui, lui, réfléchit, dans le fond, l'utilité même de cet objet-là qui fait bip-bip en se déplaçant lentement autour de la Terre. Et dans le fond, où il y a un personnage qui dit, ben, regardez, c'est un grand pas pour l'humanité, c'est une étape importante, c'est une nouvelle ère. Puis l'autre dit, ben oui, mais c'est une patente qui fait bip-bip qu'on a envoyée dans l'espace. Dans le fond, les choix de perspective, les choix de dialogue deviennent importants parce que ça donne le ton pour aussi tout le reste, d'autant pour les premières séquences, mais c'est valide pour le reste par la suite.
Oui, puis je pense qu'à la limite, comme scénariste, moi, je finis par être inspiré par la mise en scène de Francis, tu sais, puis je finis par la regarder puis par me dire qu'est-ce qu'elle me dit. C'est sûr que là, comme on le disait, on a un peu triché parce qu'on a fait du travail au préalable dans l'exposition. Puis déjà, dans l'exposition, c'était essentiellement ça. Là, on rentrait dans la cellule, il y avait un Spoutnik qui flottait, il y avait la Terre qui était comme sur le mur, puis on avait deux ou trois phylacteurs qui réfléchissait un peu à ouais, finalement à quoi ça sert. Puis ben, quand on rentrait dans la pièce, il y avait le bip, 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 qui, si je me souviens bien du dispositif qu'on avait choisi. Là. Mais c'est ça, c'est comme tu dis, là, à un moment donné, c'est chaque choix a une influence. Puis moi, c'est sûr qu'en tant que scénariste, je finis par réagir au choix de Francis au niveau de la mise en scène. Je pense. Dans les premiers aviateurs, il y a une couple de fois où il m'a vraiment surpris. Tu sais, je pense que dans le cas de la conquête du cosmos, c'était un petit peu plus écrit, c'était un petit peu pensé à l'avance. Puis je pense qu'il n'est pas arrivé avec une case où je me disais ça ne ressemble pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Mais dans le cas des premiers aviateurs, il y a des moments où je me disais OK, bien, je ne pensais pas que j'aurais une section complète où les accidents d'avion se passeraient à l'extérieur du cadre. T'sais. Puis juste ce petit décalage-là, juste cette petite décision-là, ça m'a tellement amené ailleurs. Ça a tellement changé la dynamique d'écriture. Puis je trouve que c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans cette forme-là. Il y a un travail sur les limites du cadre. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ça devient très important dans cette espèce de mise en scène minimaliste-là. Puis c'est du formalisme, mais c'est pas juste du formalisme, comme ça nourrit notre réflexion sur le sujet, mais il y a aussi juste une base formelle vraiment intéressante parce que je pense qu'on remet vraiment en question notre conception un peu de base de ce que c'est de la bande dessinée. Puis, je veux dire, en tant qu'artisan qui essaye de jouer avec ce médium-là, c'est sûr que ça a quelque chose de stimulant. Là.
Puis, je rajouterais que pour ce livre-là en particulier, vu que là, les personnages sont moins gros comme des fourmis ou des mouches, le texte a influencé quand même l'image, je pense au chapitre sur Kennedy. J'avais quand même créé quelques expressions du président différentes, et puis c'est en fonction du texte que je changeais l'expression du président. Donc à ce moment-là, c'était vraiment le texte qui influençait sur l'image. Même chose pour le chapitre avec les scientifiques russes. Le texte d'Alex, des fois, m'amenait à dire « Ah, ben là, il faudrait que je leur tourne la tête » ou il y avait quand même des petites modifications que j'ai apportées suite au texte d'Alex.
Oui, c'est vrai que tu répondais un petit peu plus à mon scénario dans celui-là que dans le précédent. Tu sais, j'ai aussi aimé, des fois, c'est des petits détails qui deviennent des espaces de création. Là, je pense à quand Francis, il a décidé qu'il dessinait un tableau. Puis là, ben, il fallait justement le remplir ce tableau-là. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme, ah, ben, c'est vrai, il pourrait y avoir quand même pas mal de gags de tableaux. Les scientifiques peuvent dessiner des affaires sur le tableau. Puis c'est ça, là, des fois, tu es comme, ah, j'avais pas pensé à cet espace-là qui peut devenir un terreau fertile pour faire 2-3 gags. Puis ben, sont là dans la mise en scène. Puis tu as juste à les investir comme scénariste.
Et à ça, on ajoute, parce que dans le fond, il y a toujours une déconnexion déjà entre justement la rigueur peut-être un peu de la mise en scène, du placement, la rigueur initiale, dans le fond, qu'on perçoit. Après ça, quand on plonge dans le texte, on découvre évidemment l'humour, le côté absurde, avec justement, on le disait tantôt, des ouvertures vers le tragique, vers le malaise aussi, entre autres avec l'épisode de Laika. Et à ça, on ajoute aussi le langage lui-même, dans le fond, le choix de rester dans une langue qui est plus québécoise, même si on est dans un sujet universel. Et ça, c'est un schéma récurrent, j'ai l'impression, dans les livres de Francis comme tel, où on s'amuse un peu avec notre joual pour ramener un niveau plus terre-à-terre aussi les dialogues. C'est quand Yuri Gagarin dit ben, « l'espace, ça soque » ou quelqu'un d'autre dit « c'est plate la lune » ou Kennedy qui dit « salut la gang ben, », ça enlève d'être un peu de triomphalisme aussi.
Ouais, et ça
ajoute à ça.
C'est automatique, tu sais, puis ça pour nous, en tant que public, ça humanise, puis ça vient tout de suite saboter, tu sais. Je pense qu'on joue toujours sur ces genres de petits décalages-là. La couverture donne l'impression que tu vas avoir un livre bien sérieux qui pourrait peut-être même, à la limite, être un manuel didactique sur la course à l'espace. Là, finalement, tu l'ouvres, puis bien rapidement, tu te rends compte qu'il y a une citation de Toby, le joueur étoile. Fait que tu te dis peut-être que ce ne sera pas si sérieux que ça. Puis là, le dialogue embarque, puis tu comprends tout de suite. Mais c'est ça, mais c'est toujours de jouer sur ces espèces de décalages-là. Puis je pense qu'il y a quand même une sorte d'austérité dans la mise en scène fixe qui pourrait prêter à genre, ah, j'ai l'impression que ça va être relativement straight, puis sérieux, puis là, tu as un autre décalage. Puis c'est toujours jouer sur ces genres de déjouer les attentes le plus souvent possible. T'sais, de créer le plus souvent cette espèce de je m'attendais pas à ça parce que j'avais créé, mon horizon d'attente était un tel, puis finalement, ce qui se retrouve, puis c'est ça. Mais c'est sûr que le niveau de la langue, il y a un impact. T'sais. Puis je pense que pour nous, c'est un peu plus naturel l'idée que. Ah ben si on est pour réécrire de manière humoristique la course à l'espace, il pourrait parler en québécois, mais là, le livre est sorti en France, puis je pense que les gens, ils sont quand même vraiment, tu sais, c'est comme, oh, la conquête du cosmos, mais en québécois, tu sais, puis ça rajoute une autre, tu sais, j'imagine que ça rajoute encore une autre couche de décalage, fait que rendu là, tu sais, je trouve juste ça vraiment, vraiment amusant comme une espèce de dynamique, là, de sabotage un peu.
Puis moi, ça fait partie de mon grand plan de dominer l'univers parce que dans Motel Galactique, on se rappelle que le Québec a envahi l'univers. Fait qu'il faut commencer par réécrire l'histoire en québécois, en joual. Puis, oui. Tu sais, c'est tout ça, là. C'est tout ça, là.
J'avoue que le endgame dans 3000 ans que tu as déterminé comme étant ton héritage artistique est quand même en bonne posture pour réaliser cette espèce de restructuration générale du réel, là, Francis. Être un outil de ton grand plan multigénérationnel, c'est un honneur pour moi.
Une construction orientée d'album en album pour se faire à l'idée tranquillement que l'accent québécois deviendra l'accent dominant.
Ouais, on pourrait faire l'histoire de l'Empire romain puis tout en joual. Puis d'ici une quinzaine d'années, là, on va avoir.
Ça va être un fait.
On va avoir réécrit l'histoire au grand complet, puis il n'y a personne qui va pouvoir les remettre en question.
Et d'ailleurs, en fait, à travers tout ça, puis à travers le langage, je parlais aussi d'enlever peut-être un peu le côté triomphaliste, parce que j'ai l'impression que tout ce que vous racontez, c'est vrai dans les premiers aviateurs, mais c'est peut-être d'autant vrai que les images de la conquête spatiale ont existé. On est en 57-69, il y avait la télévision, il y avait des visuels, on les voit encore, et on a magnifié ces moments-là. Dans le fond, Yuri Gagarin, on ne sait pas à quoi il pensait quand il était dans la fusée, on s'imagine qu'il avait conscience de ce qu'il faisait, mais peut-être qu'il pensait effectivement à son rond de poil aussi, on ne le sait pas, et j'imagine qu'il y a un plaisir aussi à essayer de ramener ou d'imaginer des pensées de terre à terre, finalement, qu'il pouvait avoir quand il faisait ce qu'on perçoit comme aujourd'hui comme des moments transcendants, dans le fond.
Ben, terre à terre, c'est sûr. Puis aussi, comme tu le disais, là, c'est de remettre en question cette espèce d'écriture triomphaliste de l'histoire-là qui est au service de quelque chose. Puis déjà, à l'époque, on prenait ces décisions-là. Tu sais, tout ce déploiement scientifique, technologique-là était quand même déjà au service d'une lutte idéologique. Tu sais, puis on faisait, tu sais, les gens parlent d'un grand pas pour l'humanité, mais après ça, est-ce que c'est vraiment l'humanité? C'est une certaine conception de l'humanité qui est défendue à chacun de ces jalons historique là. Puis c'est pour ça que, tu sais, pour moi, un des gros éléments du livre, tu sais, c'est de ramener à la toute fin l'idée que pendant qu'on a tout ça qui se passe dans l'espace, puis qu'on a cette espèce de spectacle-là, ben il y a la guerre du Vietnam qui est déclarée à la même époque, tu sais, puis cette tension-là, puis c'est pas vrai que dans une certaine mesure, c'était pas pour attirer l'attention des gens vers quelque chose d'autre, là, qu'on mettait en scène cette espèce de... Tu sais, de la même manière qu'on est dans une nouvelle... C'est totalement un hasard que le livre sorte l'année où, je ne sais pas pourquoi, là, mais on est de nouveau là, dans la conquête de l'espace 2.0. Là, puis je veux dire, elle est extrêmement idéologique. Là, puis je veux dire, à la limite, c'est comme la version... Tu sais, si on pouvait déjà rire un peu des espèces de drôles de visées capitalistes de la conquête de l'espace dans les années 60, bien, en 2021, laisse-moi te dire que c'est encore plus actuel, puis c'est encore plus le cas. Puis je veux dire, l'idée que on fasse la conquête du cosmos dans le but de vendre des produits dérivés, tu sais, c'est quasiment pour ça qu'Amazon va dans l'espace. Puis fait que, tu sais, je veux dire, cet aspect critique-là, il est totalement assumé dans le livre, tu sais, puis je pense que c'est sa raison, la raison d'être de ramener ça à quelque chose de terre-à-terre qui peut parfois paraître un peu niaiseux. Mais c'est un peu de, justement, là, c'est un des outils qu'on a pour remettre en question cette espèce de glorification institutionnalisée-là. Là.
Et puis c'est là, dans le fond, quand on rentre sur l'idée justement des malaises, sur l'idée du tragique, sur l'idée qu'on est dans l'humour, qu'on est dans l'absurde, mais qu'on n'est pas que là-dedans. Parce qu'en même temps, bien, tu nous amènes un peu dans un récit, vous nous amenez en fait dans un récit qui est absurde, on place quelques éléments, on réalise un peu sur le langage, puis le whoops, ça m'a amené... Laika qui est seule dans l'espace, puis tu sais, dans le fond, c'est un peu, OK, c'est un peu malaisant. Déjà, tout le chapitre avec le chien, un peu aussi installé un peu ça. À un moment donné, tu mentionnais la guerre du Vietnam, mais tu sais, je veux dire, c'est pas drôle comme tel. Et le fait que c'était drôle avant, on dirait que ça magnifie aussi, dans le fond, l'impact de ces séquences-là, puis des questionnements qui nous amènent aussi vers ces séquences-là.
Mais je pense que ça ajoute à la violence des ruptures de ton dont je parlais plus tôt, tu sais. Puis je pense que cette violence des ruptures de ton-là, elle a une valeur, tu sais, sur le plan, tu sais, c'est un truc qui est, tu sais, je pense que chaque saut de chapitre peut avoir cet effet-là aussi, tu sais, puis c'est de pouvoir utiliser justement là, cette espèce de construction en ellipse-là pour dire, bon, mais là, on est dans l'espace, puis là, tac, on est rendu au Vietnam, tu sais, puis tu ne l'as pas vu venir. Puis en même temps, c'est simultané, tu sais, puis c'est de pouvoir justement, je trouve que dans ce livre-là, on utilise quand même cette espèce de petite structure-là par fragments pour mettre beaucoup de choses en relation. Puis je trouve que l'idée justement que les chapitres n'existent plus tout seuls, ben c'est aussi ça, là. C'est cette espèce de... Mais c'est vrai ce que tu dis, là. L'humour devrait être un outil critique, je pense. Puis je pense que dans le cas de ce livre-là, ben c'est un peu comme le roller coaster qui... Puis là tu te dis, oh, j'ai hâte à la chute, ça va faire... Puis finalement, la chute, elle fait...
Je suis d'accord avec tous les onomatopées qui ont été prononcées.
Et il faut dire, Francis, tu avais déjà un peu donné le ton aussi là-dessus, dès la guerre des arts, j'ai l'impression, que ça s'est quand même poursuivi aussi, où ce processus-là, on dirait, se prête bien aussi à une certaine critique sociale. Il y a comme un je ne sais quoi qui amène naturellement peut-être un peu vers ça. Oui, dans le choix des sujets, mais oui, dans l'apport et dans le potentiel de ce traitement graphique-là.
Ouais, pour vrai, je pense que ça ajoute vraiment à ce procédé-là. Je pense que ça pourrait n'être que des gags, mais d'y ajouter une dimension plus critique, je pense que ça se fait bien justement parce que tu sais que ton lecteur, il va peut-être avoir une espèce d'a priori à se dire « Oh, oh, ah, OK, c'est une espèce de jeu formel avec un... » avec du rigolo, puis en même temps, tu te rends compte que tu es capable d'y passer justement des réflexions ou des messages, puis que ça, le lecteur ne le voit pas forcément venir. Fait que moi, je n'avais jamais vraiment porté attention, mais c'est vrai que le procédé lui-même se prête bien à ce genre de proposition d'idées, là, en fait.
Et en terminant, dans le fond, je rappelle, La conquête du cosmos est sorti un peu plus tôt cette année. Est-ce que c'est un procédé que vous allez avoir envie de revisiter en cours de route aussi en duo?
L'avenir le dira.
L'avenir le dira. Mais j'ai 10 000 idées, Francis. La minute que tu me dis que tu cherches un projet, là, j'ai bien des idées.
Oui, mais en même temps, tu sais, plus ça va, puis plus des fois, je réfléchis de cette façon-là, tu sais. J'ai souvent des idées, je me dis « Ah, ça marcherait bien, tu sais, juste un décor avec sur tel sujet, puis je suis sûr que je pourrais faire t'sais, une dizaine de pages. » Puis, tu sais, fait que c'est pas un procédé qui est stérile, là. Il y a plein d'affaires avec ce truc-là, tu sais, il faut...
C'est clair que de loin, ça peut être « Ah, on va le faire une fois, puis ça va être réglé. » Mais ce qui est le fun, c'est de se rendre compte que finalement, c'est pas juste une petite nouveauté amusante qui a ses limites puis dont on fait le tour rapidement. C'est une forme d'expression qui a toutes les richesses possibles puis potentielles. Il faut juste se poser la question de comment les faire ressortir. Puis ça, tu sais, à la limite, pour ça, que ce soit moi puis Francis ou d'autres gens. Tu sais, si quelqu'un arrivait puis faisait un livre exactement selon la même formule, je dirais pas comme il nous copie, je dirais juste comme j'espère que tu fais quelque chose de nouveau avec ça, parce que je pense que c'est un terrain de jeu immense, tu sais, puis je pense que ça vaut la peine d'être exploré.
Et je rappelle, dans le fond, le livre s'appelle « La conquête du cosmos ». C'est du côté des éditions Pow Pow. C'est d'Alexandre Fontaine-Rousseau et Francis Desharnais. Merci à vous deux.
Merci.
Toujours dans le cadre de la vie en BD, c'est le moment dans notre mois de novembre où on plonge justement dans le dernier mois en BD de Stéphane Gravel, dans ses plus récentes lectures. Stéphane Gravel, salut!
Bonjour, allô. Je passais à d'autres choses là, ce mois-ci. Là.
Oui, en fait, c'est assez varié. Je voyais un peu ta sélection d'entrée de jeu. On va dans le western, dans les récits de pirates, dans l'aventure...
Ben, je pense que la dernière fois, quand on s'était parlé, j'avais parlé de mon désir de revenir un peu dans des classiques, dans du conventionnel. Bon, pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas. J'avais été vraiment touché, moi, par la BD « Jour de sable », où je trouvais qu'il y avait une BD qui allait en profondeur et qui était vraiment un récit qui était palpitant et qui était intéressant. Et ça m'avait fait réfléchir aussi sur... le sens de l'image, je trouvais qu'il y avait une belle mise en abîme de la BD et j'étais un petit peu, en même temps, un peu fatigué ou un peu tanné de la BD, genre BD un peu élitiste de 1000 pages ou de 2000 pages avec des trucs qui étaient un peu plus, qui étaient différents. Puis je trouvais qu'on boudait un peu l'essentiel de la BD qui nous avait nourris lorsqu'on était jeunes. Et là, ça m'a donné le goût de revenir un peu en arrière et Je l'ai fait avec, entre autres, avec Barbe Rouge. Barbe Rouge qui a été relancée l'année passée avec une nouvelle série, avec de nouveaux auteurs, avec Crahin et Carloni. Habituellement, tu le sais, bien, on en parle souvent, les retours en BD, on en avait parlé un peu aussi avec Corto Maltese, les retours en BD, ça fait toujours un peu... Ça me fait toujours un peu grincer des dents, puis je trouve que souvent, c'est un peu comme le cinéma américain, je trouve qu'il y a un peu de paresse à faire des remakes ou de revenir sur les grands classiques, mais en même temps, les grands classiques nous ont touchés quand on était jeunes, et pourquoi ne pas y aller et pourquoi ne pas continuer dans ce sens-là?
C'est toujours la question, est-ce que le personnage a encore quelque chose à dire aujourd'hui? Est-ce que visuellement, ça cadre encore? Il y a toujours beaucoup de questions, puis les réponses, j'imagine, vont orienter aussi la façon par laquelle on va développer cette série-là, puis la façon par laquelle le lecteur va le recevoir.
Écoute, moi, j'ai lu Barbe Rouge, là, Le Cavalier des Sept Mers et compagnie. Il y a 35, 40 ans, il y a 40 ans. Donc... Puis je sais pas une série que j'ai lue au complet. Il y a quelque chose comme 30 ou 35 tomes de Barberousse. C'est quand même un grand classique de la BD, un grand classique de la BD classique. Mais ça reste une série qui est parue au tout début de Pilote, là, dès les années dès 1959 et qui a poursuivi qui a duré longtemps. C'est pas une série qui a été non plus attachée nécessairement à ses dessinateurs et à ses auteurs. C'est-à-dire que quand Charlier est décédé, la série s'est continuée et elle a continué. Mais ça avait arrêté ça, cette série-là, il y a peut-être 15 ou 20 ans. Et je me souviens un peu, dans les médias, on parlait de vouloir faire mourir, on voulait faire mourir Barberousse pour mettre fin à la série. Et puis... ça n'a jamais arrivé. Comme si les auteurs avaient... Personne n'avait osé tuer un personnage de jeunesse. Et là, on le reprend aujourd'hui avec un dessin beaucoup plus moderne, mais avec quand même une façon de raconter qui est toujours aussi classique. On est près, à quelque part, du style de BD que Charlier faisait à l'époque. C'est-à-dire que c'est très verbeux. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'espace récitatif. Mais on embarque dans ça comme on embarque un peu dans un vieux film. Mais le graphisme est très, 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 très moderne, lui. Il est très nouveau et c'est très intéressant d'embarquer dans cette série-là. Le personnage a encore quelque chose à dire pour répondre à ta question. C'est un personnage qui est extrêmement fascinant et que j'ai redécouvert. C'est-à-dire que Barberousse n'est pas le personnage principal de sa série, dans le fond. Même si c'est lui qui porte, même si c'est lui qui porte le drapeau, même si c'est lui qui est à l'avant-plan, c'est plus son fils son fils adoptif qui a été adopté dès les premiers épisodes, qui est le personnage principal. Parce que le fils, lui, il est quand même assez bien pensant, il est positif. C'est un vrai héros, tandis que Barberousse n'est pas un vrai héros parce qu'il est vraiment salaud. Et il n'a pas peur de tuer, il n'a pas peur de faire du mal, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas une morale, il n'y a pas de morale derrière ce personnage-là. Et ça transparaît beaucoup dans la nouvelle série et beaucoup plus qu'avant. Et ça, j'ai trouvé ça quand même aussi intéressant parce que c'est parfois des fois un peu déstabilisant parce que le personnage de Barberousse est un personnage du passé au niveau historique pour sa BD et aussi... issu d'une série qui, elle, est historique en BD, ce qui fait que les personnages n'ont pas été de... les auteurs n'ont pas été de façon politically correct pour mettre des mots dans la bouche de Barberousse. Sa position face aux femmes, la position face au racisme, si on veut, parce que là, on est à l'époque des pirates, on est à l'époque des guerres entre l'Espagne, les alliés avec la France, l'Angleterre, qui sont vraiment des pas gentils. C'est l'époque aussi des esclaves noirs. Donc, on mélange tout ça avec une femme qui est un personnage tertiaire quand on en a besoin dans ce style de série-là et de cette époque-là. Habituellement, c'est quelque chose qui me choque quand on s'amuse avec ça, mais là, le personnage de Barberousse est tellement intéressant dans son côté vraiment de pirate, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché à rien, que ça rend cette série-là extrêmement intéressante. Dans le fond, j'ai trouvé ça le fun. J'ai replongé dans une lecture d'enfance que j'aimais, que j'avais aimé.
Stylistiquement, comme ça avait évolué, ben, tu n'as pas eu un décrochage en termes graphiques par rapport à des trucs plus récents que tu aurais pu lire, par exemple.
Non, puis j'ai 35-40 ans de plus qu'à l'époque où je l'avais lu, et je pense qu'on a réussi à faire vieillir un peu cette BD-là. Est-ce que ça en fait une BD de mon oncle? Je ne le sais pas, parce que maintenant, je trouve que ces BD-là, on va appeler ça les BD de mon oncle. Puis ça m'a rappelé une anecdote que je trouve le fun, c'est que on essaie de recamper quand même, hein? 20 ans plus tard, on essaie de recamper les personnages dans cette série-là pour qu'on ne soit pas obligé d'aller retourner en arrière pour lire les 35 tomes de la série précédente. Et ça m'a rappelé que c'est Barberousse et le pirate de Astérix aussi. C'était vraiment une parodie de la série Barberousse que sont les pirates des aventures d'Astérix. C'est les mêmes personnages, c'est la, C'est le même personnage secondaire, le trois pattes, qui est un polyglotte savant qui va toujours lancer une phrase en latin. Et là, c'est en le voyant parler en latin comme ça que ça m'a rappelé Astérix. J'ai dit « Ah! » Mais j'avais jamais compris ça à l'époque en lisant Astérix, qu'une BD parodiait une autre BD qui faisait partie du même journal, dans le fond. Les deux étaient étaient dans le journal pilote, et ça m'a fait beaucoup sourire.
Alors, ça, c'est Barbe Rouge, donc la nouvelle mouture de cette série. Deux tomes, d'ailleurs, de disponibles de ce côté. Et on s'en irait vers quel autre titre, Stéphane?
Indissociable, les deux tomes. Hein. Les deux tomes sont vraiment une histoire complète. Là, on ne peut pas lire juste le 2, sauter le 1, ou juste le 1, sans aller vers le 2, parce qu'on ne sait pas du tout où on s'en va. On va faire un petit tour dans un western, encore une fois, très classique. Undertaker, le tome 6 de Meyer et d'Horizon.
Très bon souvenir de cette série-là, dès le premier tome. Je crois que c'était dans les westerns, le renouveau western, je crois qu'elle s'insérait très bien là-dedans.
Absolument. On est dans la lignée, je trouve qu'on est dans la lignée du Blueberry, quelque part. C'est vraiment un western classique avec un personnage qui a juste le goût de vivre sa vie sans être empêtré par tout ce qui se passe alentour de lui, mais qui est toujours pris par des actions ou des trucs qui sont alentour de lui qui fait qu'il va toujours vivre et toujours être pris dans l'aventure. L'aventure lui saute dessus. C'est un peu comme Tintin aussi, là. C'est des personnages dont l'aventure lui saute dessus. Ils n'ont pas le choix de vivre des aventures. C'est extrêmement beau comme dessin et c'est très bien raconté aussi comme histoire. Encore une fois, ce tome-là est la suite de l'Indien blanc, le volume précédent, et les deux doivent être lus en paire. Mais ce que je me suis rendu compte avec Undertaker, puis c'est un peu, ça a l'air peut-être un peu stupide ce que je veux dire, mais c'est qu'on en est déjà au tome 6 quand j'ai l'impression que le tome 1, justement, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, et que cette BD-là, comme toi, m'avait marqué pour son renouveau, mais son renouveau dans le classique. Ça reste une BD classique, et puis avec une histoire classique, mais il y a quelque chose de renouveau, et le personnage a une dimension qui est très intéressante. C'est-à-dire que l'Undertaker, qui est un croque-mort et qui se promène dans l'Ouest avec son corbeau et son corbillard, déjà je trouve que c'est une facette là, dont on va chercher, qui est une réalité de l'époque du Western, d'ailleurs, mais qui amène un personnage qui, lui, a décidé de tout laisser tomber et il ne veut rien savoir de rien. Et c'est cette espèce de personnage, entre guillemets, imperméable-là qu'on suit tout le long à travers ses aventures. Et moi, c'est ça que je trouve extrêmement intéressant parce que, en voulant se détacher, je trouve que c'est quelqu'un qui... Bon, j'en parle comme si c'était quelqu'un maintenant. Je trouve que c'est quelqu'un qui a toujours un regard extérieur face aux événements. Il est toujours en train de voir les choses un petit peu de haut, un petit peu de loin. Il essaie de ne pas s'impliquer, il essaie de ne pas en faire partie. Bon, l'histoire veut qu'il est toujours quand même pris dans ça, mais je trouve que ça fait de lui un personnage avec une dimension qui est très, 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 très intéressante et on s'attache à ce personnage-là. Et on s'attache aussi... Au personnage secondaire. En tout cas, ça m'a donné le goût de j'ai lu le tome 5 et le tome 6 pour lire cette aventure-là, et ça m'a vraiment donné le goût de revenir en arrière et de lire les premiers, parce que
Les premiers qui étaient très solides, qui mettaient vraiment des bases, puis d'ailleurs, je cherchais une parenthèse absolument non reliée, mais si je mets dans l'autoplug, d'aller faire un tour pour ceux qui nous écoutent dans l'index des entrevues, si vous avez manqué en 2015, justement, Ralph Meyer qui était passé à l'émission pour présenter un peu les bases des assises. Je pense qu'on a un tome 1 ou 2 à ce stade-là de cette série-là également.
Et quel dessinateur!
Ah, vraiment!
Mais quel dessinateur! Il y a un dessin qui est extraordinaire. Il y a une fermeté dans son trait qui est extraordinaire. Moi, il n'y en a pas... Bon, on commencera pas à comparer, mais... je trouve qu'il réussit à amener à la fois une rigidité, un mouvement. On sent la chaleur, on sent l'ouest. C'est vraiment un dessinateur de haut niveau. Et puis, Le scénario va de pair avec son travail de dessinateur. C'est une série qui vaut vraiment, vraiment la peine.
Si on s'intéresse, j'ai l'impression, au renouveau, en 2015, oui, si on s'intéresse au renouveau du western en BD, puis qu'on n'a pas encore tombé sur Undertaker, je pense que, dans le fond, ce qu'on comprend actuellement, c'est qu'on a manqué quelque chose aussi. C'est le message qu'on fait passer. Là. Ça vaut la peine, je pense, de se plonger dans cette série-là. Si vous aimez le genre, là, c'est clair que si vous ne l'avez pas trouvé, c'est une erreur.
Absolument, absolument. Parce que, en fin de compte, on essaie de faire des nouveaux westerns. On essaie de faire des westerns avec... on essaie de reprendre Blueberry. On essaie de reprendre Lucky Luke aussi pour... mais Undertaker est là, dans le fond, mais ce n'est pas une série classique des années des grands journaux de bande dessinée. Là. C'est assez récent, cette série-là. Et puis, mais ça n'en reste pas moins que c'est quelque chose qui est très, très fort et aussi fort probablement que l'étaient les grandes séries comme Blueberry à l'époque où elles étaient à leur meilleur.
Alors, ça, c'est Undertaker, je rappelle, le 6e tome qui est arrivé plus récemment sur les étaux des libraires, à lire conjointement avec le 5e d'ailleurs. Et Stéphane, j'aurais presque envie qu'on reste un peu dans le western. Un album, en fait, du moins, je me fie à la couverture que tu me présentes, les gens ne la voient pas, mais c'est un désert de sel presque. C'est vraiment joli avec des tonalités de bleu. Ça s'appelle Fausse Piste.
Fausse Piste de Duhamel chez... c'est Maison d'édition Grand Angle. Oui, on est dans le western et on est dans un western qui semble... je dis bien, semble vouloir être un western classique aussi dès le départ. Encore une fois, un dessin qui, Duhamel, quelqu'un qui a un dessin que je trouve assez bien, assez original aussi. Ça reste un dessin classique avec une narration, avec une histoire qui est classique. Mais ce qui est intéressant dans ce western-là, dans le fond, c'est que ça n'en est pas un. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, lui, joue un personnage de western dans une petite ville aux États-Unis pour les touristes parce qu'ils refont une scène dite classique qui s'est passée dans leur village à l'époque des cowboys. Et puis, ce personnage-là est un acteur de ça. Il fait son petit spectacle tous les jours pour les touristes. Puis, à un moment donné, avançant en âge, il est trop vieux pour jouer le personnage qu'il avait à jouer. Donc, il perd son travail et on lui offre de faire un voyage dans l'Ouest américain pour vraiment voir les endroits d'où venaient les grands personnages classiques dont il racontait l'histoire de toute sa vie. Donc, c'est un peu une quête... c'est un peu une quête mystique dans les déserts de sel, justement, qu'a ce personnage-là, parce que ça reste un personnage qui a vécu toute sa vie dans l'histoire, dans le souvenir et dans ce que pouvait être le western. Et on va le suivre dans sa quête de découvrir qui il jouait vraiment à travers une Amérique qui, elle, est moderne, avec des touristes qui sont modernes dans une époque qui est contemporaine.
Et ça donne une dichotomie intéressante entre la perception qu'avait ce personnage-là de ces réalités-là, puis la réalité des endroits, donc entre l'imagination qu'on en avait, puis la réalité factuelle, dans le fond.
Exactement, et c'est dans sa tête. On ne fait pas beaucoup de lieux dans cette BD-là, ce n'est pas un road movie, mais c'est dans sa tête que ça se passe, c'est-à-dire... qui était ce qu'on croyait des légendes. Et lui étant quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, aime beaucoup la lecture et s'est beaucoup intéressé, a fait d'un personnage une légende, quelqu'un qui ne l'était pas vraiment à l'époque et vit avec cette pression, si on veut, là, morale d'avoir rendu quelqu'un une légende quand il sait pertinemment que, dans le fond, c'était une personne moins qu'ordinaire. Donc, toute cette dualité-là entre le personnage est extrêmement intéressante et c'est pas un roman graphique, là. C'est une simple BD dans l'ordre des 50-60 pages où le personnage réussit à amener où l'auteur réussit à amener toute la dimension de ce personnage-là, toute la réflexion, toute la, la, Je pense qu'il est un peu. Il y a des problèmes de personnalité, là, le personnage dans BD. Là. Il est un peu limite au niveau social. Fait qu'on a toute la dimension aussi du regard des autres sur un personnage qui, toute sa vie, a joué un personnage et qui peut avoir des troubles de personnalité. Et tout ça, on amène ça dans une BD classique. J'ai trouvé ça extraordinaire et merveilleux d'être capable de le faire avec autant de. Avec si peu de sérieux, tiens. C'est pas fait de façon sérieuse, c'est fait de façon avec une BD d'aventure agréable qu'on peut mettre entre les mains de tous. C'est vraiment une belle BD. Fausse piste de Duhamel.
Et un petit dernier pour ce mois de novembre vers Contrapasso.
C'est pas un petit dernier, Raymond.
C'est un gros dernier.
C'est un gros dernier. C'est une BD que. Ça se passe dans les années 50 à Madrid. C'est une BD avec vraiment tout ce qu'on peut voir de plus en plus de récits espagnols. Je trouve qu'on découvre l'Espagne avec les séries comme qu'on voit à Netflix, avec les séries télé. On en voit de plus en plus. Ce n'est pas un univers qu'on connaissait, bon, en tout cas que moi je connaissais beaucoup. Je connaissais le cinéma d'Almodovar et je connaissais des trucs un peu marginaux qui venaient de l'Espagne, mais je trouve que de plus en plus, on en voit beaucoup. On voit beaucoup de trucs qui mettent en perspective leur histoire qui n'a pas été évidente, la période de Franco. Et, dans cette BD-là, c'est l'histoire de journalistes, et, oh, j'ai aimé ça, qui écrivent dans un journal qui est géré, bien sûr, dans les années 50 par l'État, là, parce que l'État contrôle tout. Donc, les journalistes sont des personnes qui sont, ma foi, extraordinaires. C'est des enquêteurs, quasiment. Ils travaillent dans les faits divers. Ils vont faire enquête sur des meurtres en série de jeunes femmes, classiques, mais très bien faits, très intéressants. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de dire nulle part qu'est-ce qu'ils découvrent parce que c'est le gouvernement qui va décider à quelque part qu'est-ce qui est écrit dans les journaux. Donc, en ligne de fond de tout ça, on a toute l'Espagne d'après-guerre, l'Espagne franquiste, on a la montée du communisme, de ceux qui veulent devenir communistes, on a les phalangistes, la libération de la femme aussi, la place de la femme dans cette société-là, dans la société de la presse où elle n'était que des dactylos alors que les hommes étaient à l'avant-plan. Toute la religion catholique aussi, la force de la religion en Espagne. Donc, les relations père-fils, c'est très complexe en étant très simple. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux dans ça et il y a beaucoup d'intérêt. Teresa Valero a fait beaucoup de recherches pour faire cette BD-là et il y a une grande place à la libération de la femme et à la place de la femme. Il y a une grande place aussi au regard sur l'homosexualité à l'époque qui était interdite, qui était une maladie. Mais tout ça, encore une fois, dans un récit d'aventure qui est au point de départ l'histoire d'un homme qui va entreprendre une série d'articles qu'il ne pourra pas publier, en fin de compte, sur une suite de mortes dont il essaie d'élucider le mystère et qu'il pense que le gouvernement peut être en arrière de ça. Et là, en plus, on a le côté un peu récit de série espagnole où on apprend qu'un tel est le père de l'autre et que l'autre peut être le cousin de l'autre qui est en amour avec un tel. Il y a le côté, un petit côté série télé là-dedans que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et encore une fois, tout ça mélangé dans une intrigue de base simple. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup adoré. J'ai ri à quelque part parce que c'est un peu cucu, mais c'est volontaire. Là. C'est vrai que c'est pas. Puis si on voit le dessin, là, je sais pas, j'essaie de te le montrer, mais le dessin est extrêmement beau aussi. Là. C'est vraiment un beau travail, cette BD-là. Là.
Donc, on prend une structure qui pourrait sembler classique, mais justement, on embrasse un peu les côtés plus attendus pour mieux nous amener peut-être un peu ailleurs aussi à l'intérieur de ce cadre-là.
Oui, puis le dessin nous aide à comprendre des espèces de détours un peu sensations qu'on fait dans le scénario, parce que le dessin est très classique, mais théâtral. Les gestes des personnages sont très des positions très théâtrales, très avec un peu des danses. Il ne marche pas, il danse. Fait que tout ça amène avec une espèce de climat qui nous décroche un peu d'une BD réaliste. On sent qu'on n'est pas dans quelque chose qui est une BD genre comique américain où tout est réaliste ou complètement éclaté, là. C'est vraiment spécial. C'est vraiment intéressant.
Alors, la description, en fait, vous intrigue, mais je vous rappelle que ça s'appelle Contra Paso. Donc, voilà.
Les enfants des autres, ça donne une idée aussi de l'histoire. C'est le tome 1, il va y avoir une suite à cette aventure-là.
Alors, ben voilà, donc pour le mois en BD de Stéphane Gravel. Stéphane, on se revoit le mois prochain.
Ouais, bien sûr, avec quatre Merci. Belles lectures. Salut.
4 BD et notamment, ben, on fait un album, je pense, qui était très, très attendu, comme c'est le cas à chaque fois que cette série arrive sur les étaux des libraires. C'est le dernier Astérix. Je crois qu'on en est rendu au tome 39, donc Astérix et le Griffon. Donc, toujours Jean-Yves Ferry, toujours Didier Conrad qui sont derrière cette machine. Donc, ça fait quand même déjà quelques albums qu'ils se sont appropriés, dans le fond, l'univers d'Astérix, mais cela étant dit, c'est le premier album qui est entièrement à titre posthume, on pourrait dire, donc des auteurs originaux d'Astérix. Donc René Goscinny qui nous a quittés il y a déjà moultes années, mais Albert Uderzo qui, lui, nous a quittés en mars 2020. Alors donc, c'est le premier qui va se faire sans la présence d'un des deux auteurs. Mais évidemment, on l'a vu au fil des derniers albums, donc Ferry et Conrad se sont appropriés, je pense, le ton, l'esprit d'Astérix et évidemment continuent dans le fond de faire évoluer, progresser la série. Et c'est un peu une rengaine sporadique là, quand on parle de ces albums et de ces séries qui, dans le fond, se poursuivent au-delà du passage original de leur créateur. Et il y a toujours un peu la préoccupation à savoir, mais est-ce que c'est la nostalgie qui va l'emporter sur une certaine actualité, dans le fond, du personnage, dans la mesure où il importe toujours qu'il y ait des correspondance à une certaine modernité, qu'on ne soit pas ancré dans une répétition, même si, comme on dit, bis placent repetitas. Donc, il y a cette dynamique-là, cette préoccupation-là, et en parallèle, ben reste qu'une aventure d'Astérix, c'est une aventure d'Astérix, un univers qui a été brillamment, même brillantissimement mis en place par Uderzo et Goscinny il y a déjà fort longtemps. Alors, reste que la pression demeure grande. Et je pense que Ferry et Conrad nous ont habitués au fil des derniers opus à des propositions qui sont solides, qui ne sont pas nécessairement à l'égal des plus grands Goscinny, mais qui se défendent bien pour la plupart et qui rattrapent aussi quand même assez bien des albums un peu plus décevants qu'on avait eus là, avant la reprise de la série par Ferry et Conrad. Donc, dans ce contexte-là, Astérix et le Griffon, donc est-ce que c'est bon, est-ce que c'est agréable? Ben, je pense que oui, je pense que c'est un bon Astérix qu'on nous offre là avec ce 39e tome. Je parlais tantôt de correspondance avec la modernité. Ben, il y a quand même quelques questions, justement, quelques éléments thématiques dans lesquels on se retrouve actuellement qui sont présent dans les propos de l'album, quand on parle de manipulation, quand on parle de désinformation, quand on parle de complot, quand on parle de rumeurs, eh bien, il y a ça qui est présent. Bon, j'explique, je contextualise pour ceux qui n'ont pas encore lu l'album. Donc, essentiellement, c'est César qui a un intérêt, en fait, qui se fait intéresser à un animal légendaire qui, semble-t-il, existerait dans les contrées des Sarmates. Il s'agit d'un griffon. Et donc, le géographe officiel de César, Terre Inconnue, eh bien, le convainc donc de lui laisser mettre de l'avant une expédition pour aller chercher le dit griffon. Et ben, par moyen télépathique, il y a un chaman Sarmat qui s'appelle Sekankondin qui appelle à la rescousse Panoramix et les Gaulois pour aller chercher un coup de pouce pour limiter, pour empêcher les Romains donc de venir chercher cet animal légendaire. Et ben, ce qui semble être peut-être une aventure assez classique, finalement, se voit aussi halté par un petit problème en cours de route. Donc, la potion magique est gelée, elle a perdu ses capacités. Et donc, il faudra trouver d'autres façons pour gagner que de simplement boire la potion magique et rentrer dans le top. Je n'en dis pas nécessairement plus. Évidemment, l'album évolue à travers tout ça. On se retrouve donc les Sarmates, c'est un peu les contrées du Kazakhstan. Donc, c'est quand même une région qui n'avait pas encore été vraiment explorée dans Astérix. On retrouve aussi d'autres personnages, d'autres peuples qui permettent aussi des petits clins d'œil, des petites références à l'actuel. Je pense, par exemple, à une tribu de type Amazon qu'on retrouve là. Eh ben, évidemment, il y a des correspondances à faire. Les sites aussi qui sont encore là, on s'amuse un peu avec une pléthore de jeux de mots autour du GAFAM et de la situation Internet actuelle. Donc, bref, il y a cette présence-là aussi qui est peut-être moins soulignée à grand trait que dans d'autres albums. Là, je me rappelle, entre autres, un des précédents là, qui allait fort un peu sur ce type de jeu de mots-là. On était un peu plus réservé là-dessus, mais sincèrement, là, je pourrais jaser longuement, là, mais ça reste un bel album d'Astérix. C'est bien fait, c'est mis en scène dans le respect un peu des cadres habituels, des cadres auxquels on s'attend, avec un scénario qui est solide et essentiellement, ben, ça fonctionne, ça marche. Donc, si vous avez appétit d'un Astérix, si vous vous demandiez encore, malgré que vous avez peut-être lu plein d'autres critiques ça et là aussi, si vous demandiez encore, ben, est-ce que ça vaudrait la peine d'y jeter un coup d'œil, ben, moi, je vous répondrais sincèrement, pourquoi pas? Il est bon, ce 39e tome d'Astérix. Donc, c'est de Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. C'est chez Albert René Édition. Donc, tome 39, Astérix et le Griffon. Et puisqu'on est dans les tomes lointains et prolongés, eh bien, mention également du tome 20 de Game Over. Pourquoi pas? Ça fait quelques tomes que je prenais une pause de cette série, à tout le moins de vous en parler. Alors, où on en est? Sincèrement, je suis toujours un peu scié quand je retombe sur ces séries-là et de voir à quel point on est capable de faire vivre une formule qui est, somme toute, relativement simple. Depuis 20 tomes, vous imaginez la quantité de gags qui a été produite. Et cette fois-ci, ben, c'est évidemment Midam et Adam qui reviennent et Patelin aussi donc qui revient collaborer. Donc, et les trois réussissent encore à trouver des nouveaux gags, des nouvelles formules qui plaisent, qui font mouche. Et visiblement, en fait, puisqu'ici à la maison, je vous dirais que les garçons se l'échangent joyeusement depuis qu'elle est arrivée. Donc, une série, en fait, qui est toujours intéressante à voir évoluer dans la mesure où, bon, évidemment, on est sur du gag muet, on est sur du gag à formule, au bout du compte, très simple, où il y a une situation quelconque, mais peu importe la situation, ça doit se conclure par la mort des personnages principaux. Et on a une série qui, au fil des opus, semble aussi avoir mis son emphase sur l'action comme telle. En fait, les fonds qui sont de moins en moins détaillés, des fonds dégradés, ont vraiment une emphase sur l'action. On essaie quand même de jouer un peu avec la formule. On se permet des gags un peu plus longs, d'autres un peu plus courts. Donc, il y a une liberté qu'on se donne. Mais essentiellement, la question, quand on en arrive au 20e tome, c'est de savoir est-ce que la série fonctionne encore? Est-ce que c'est encore drôle? Est-ce qu'il y a encore du jus? La réponse que je vous ferai là-dessus, c'est oui, clairement, il y en a encore. Ils sont capables de continuer à l'animer de façon fort adéquate, cette série. Et si on rattrape Game Over, ben, pourquoi pas le 20e? Si la formule vous plaît, ben, probablement que vous avez déjà un peu envie d'aller y jeter un œil. Et sinon, ben, c'est le genre de série où, bon, est-ce qu'on prend le 20e, le 18e, le 16e? Ben, sachez qu'à tout le moins, au 20e, ça continue encore à exister de belle façon. Et ça continue à marcher là, en rivalisant, évidemment, d'ingéniosité pour trouver des idées de décès de tout genre et de tout type. Alors ça, c'est le tome 20 donc, de Game Over, c'est Deep Impact, donc de Midam, Patelin et Adam. Et sincèrement, là, ça reste très correct et c'est chez Dupuis. Série sur laquelle je suis tombé, et sincèrement, j'ai échappé un peu le premier tome, le deuxième tome. J'essaie souvent, généralement, de à tout le moins de prendre le temps de regarder les premiers tomes pour voir un peu comment la série se place. Dans ce cas-ci, bon, je rattrape au troisième. On fait un petit retour en arrière aussi quand même. Donc, Les Géants, le tome 3 qui vient d'arriver de Bora et Leap, en fait. Donc, le sous-titre, c'est chez Glénat. C'est de Liliane, de Paul Drouin, de Louisa Rousseau, avec la couleur de Laurien. Donc, essentiellement, donc, c'est une série vraiment à grand déploiement là, qui roule quand même assez rapidement. Si je ne m'abuse, il y a des changements de dessinateur là, de tome en tome, mais quand même une continuité sur la couleur. Donc, ce qui garde quand même un esprit d'ensemble. Et donc, c'est une mythologie qui se bâtit autour de géants. Donc, on aurait un géant méchant, donc celui de la destruction, qui a été retracé sur Terre et qui s'est fait approprier par une corporation méchante, donc la Crossland Corporation. Et en parallèle, ben, il y a d'autres géants qui sont découverts aussi en parallèle, qui étaient des bons géants, qui sont restés sur Terre pour lutter justement contre ce géant de la destruction. Et essentiellement, chaque géant lie sa conscience à des enfants, prend un peu ou partage leur énergie, et donc ce qui en fait des alliés, à leur dépend dans certains cas, de façon volontaire dans d'autres cas. Et donc, chaque tome, pour l'instant, ben, se centre sur un enfant et son géant, ou dans le cas du tome 3, donc Bora et Leap, un duo, des frères-sœurs jumeaux, qui vont se lier à un géant qui s'appelle Kima, qui est, lui, le géant contrôlant la terre et les minéraux. Et donc, on va voir un peu, c'est un peu formulaire d'une certaine façon, donc la découverte de géants-là, la prise de contact, ensuite une situation qui va amener un certain retournement, un certain stress, une certaine pression, jusqu'à un dénouement qui va intégrer, si on peut dire, ce géant-là dans le panthéon de héros disponibles qui, on l'imagine, au fil des tombes, vont être amenés à collaborer ensemble pour lutter contre la Crossland Corporation et son géant de la destruction. Donc, on a dans le tome 3 quand même donc des clins d'œil qui sont faits au tome précédent, donc les enfants et leurs géants qui ont imprégné un peu l'actualité, la Crossland Corporation qui met de l'avant également son géant et le potentiel, entre autres militaire ou autre, de celui-ci. On donne quand même pas mal de place aussi à ce qui est en train de se développer de ce côté-là, qui semble être quand même aussi un fil rouge qui se place de tome en tome, donc une intrigue plus large et qui nous rappelle aussi que tout ce qui se passe s'insère dans une intrigue qui est quand même un peu plus large. Donc, est-ce que je suis complètement enthousiasmé par cette série-là? Non, je ne vous dirais pas que c'est transcendant comme série jeunesse. Il y en a quand même beaucoup. Ça s'insère dans un style qui est quand même, somme toute, classique. Cela dit, l'autre sous-question, c'est même si ça ne réinvente pas la roue, est-ce que j'ai eu du plaisir à le lire? Et là-dessus, la réponse est oui. Moi, comme adulte, ça se lit bien. Ce n'est pas nécessairement le premier livre sur lequel mes enfants se sont lancés, cela dit, dans ce qui traînait à la maison. Mais donc, ça reste un moment de lecture qui est agréable, ça reste bien ficelé. Dans le fond, Liliane, côté scénario, reste quand même assez solide. Il accumule les séries au fil des mois, des semaines. Dans les séries que j'ai lues de lui cet automne, je dirais que j'ai quand même préféré la Moira dans la manière tranquille par laquelle la mythologie se met en place. Mais pour les géants, ça fonctionne quand même bien et j'aime l'idée d'ampleur justement qui est amenée aussi là-dessus. Évidemment, ça implique quand même une lecture active parce que les tomes sont très, très liés, donc on ne peut pas simplement l'attraper comme ça où c'est plus difficile. Mais j'aime quand même cet esprit-là et j'aime cette ambition-là qu'on semble avoir à l'intérieur de cette série-là. Et sincèrement, je suis quand même curieux de voir comment ça va se développer et surtout comment on va en arriver justement à mettre en scène ce qui, j'imagine, va être une belle explosion finale dans quelques tomes avec l'ensemble des géants. On nous annonce un nouveau géant qui va apparaître dans le prochain tome. Donc bref, si vous n'avez pas eu l'occasion de croiser cette série-là, ça peut être intéressant. Vous pouvez y jeter un petit coup d'œil. Dessin correct, scénario sympathique et une belle ampleur quand même à cette proposition. Donc, je le rappelle, de Liliane, Paul Drouin, Louisa Rousseau et Laurien. Et c'est du côté de chez Glénat. Donc, tome 3 des géants, Bora et Leap. Et tiens, pour terminer sur ces multiples tomes, je vais juste faire un petit clin d'œil à une autre série, en fait, puis ça fait quelques tomes que je l'avais mis de côté, oublié. Je pense qu'on est rendu au tome 13 ou 14 là, de Pico Bug sur le chemin. Pico Bug est une série dans les premiers tomes que j'avais trouvé vraiment chouette parce que pour moi, ça me rappelait un peu l'esprit de ces séries, de ces univers de mots d'enfants. Il faut dire qu'à une certaine époque, je pense que ça remonte pratiquement à 10 ans, là, c'est fou, je me sens vieux en vous disant ça, mais il y avait quand même beaucoup de séries qui s'amusaient justement aux histoires familiales, aux histoires de parents. Et en parallèle, bien, il y a toujours eu, je pense, pas mal de séries qui s'intéressaient à ces mots d'enfants, ne serait-ce que le petit Nicolas, évidemment, dans un certain style. Et Pico Bug qui adressait un peu ça, mais dans un cadre qui était très philosophique. Donc, c'est les enfants philosophes, les enfants qui, certes, ont des réflexions qui dépassent largement leur âge, mais qui sont exprimées dans leurs mots. Donc, je trouve que ça fait des textes qui sont quand même assez agréables et des réflexions qui sont amenées de façon assez sympathique. C'est pas des albums où on va rire à chaudes larmes, évidemment, et je pense pas que c'est l'objectif. Je pense que c'est plutôt des albums qui se veulent souriants, qui se veulent avec une certaine légèreté, mais qui sont également des portes ouvertes quand même à certaines réflexions. Donc, il n'y a pas... Et c'est d'autant vrai dans ce tome-là. Donc, sur le chemin où, bon, oui, il y a une certaine variété dans les gags. Il y a même bon, des trucs un peu plus rigolos avec l'humour un peu pipi-caca là, qui s'insère là-dedans. Mais c'est fait quand même avec biologie. Là. Je pense que sans tomber sur le punch, on nous explique que les méduses utilisent le même orifice pour déféquer que pour manger en lien avec du gâteau au chocolat qu'ils mangent. Je vous en dis pas plus. Mais reste que le fil rouge de l'album est plutôt donc, un des amis de Pico Bug qui cherche à comprendre la nature de la violence et qui va en discuter avec ses amis dans différents contextes, qui va chaque ami va un peu essayer d'amener sa définition ou des définitions associées donc au terme, donc autant l'idée de se faire violence pour se forcer à partager, autant l'idée de la violence qui est naturelle entre guillemets, donc entre les animaux qui se mangent entre eux, le cercle de la vie, si je reprends les termes du Roi Lion. Donc il y a ces éléments-là et il y a la violence dite évitable dans le fond, qui est celle de la cour d'école, qui est celle des guerres et des grands conflits, qui est celle qu'on choisit dans le fond d'administrer à quelqu'un d'autre de façon volontaire et qui, mais justement, est évitable. Et donc, ça devient un peu le fil rouge, cette construction de discours qu'on monte tranquillement vers le point d'orgue dans le fond de cet opus. Et si je me rappelle bien, c'est quand même un procédé qui est utilisé sporadiquement par Alexis Dormal et Dominique Rock à l'intérieur de cette série-là, donc d'amener quand même là, donc un propos qui est peut-être un peu plus développé et évidemment, mais dans le contexte des débats, des discussions actuelles, ben reste qu'il y a encore là un ancrage quand on parle d'intimidation et autres éléments comme ça, bullying, à l'intérieur du contexte scolaire et du contexte social, ben il y a quand même des allers-retours qui sont intéressants et sans nécessairement dire que les réflexions qui sont amenées là-dedans sont transcendantes, ça a tout le moins le mérite de les asseoir et de les asseoir de façon quand même assez claire. Donc, est-ce que encore là, c'est le meilleur Pico Bug? J'en ai raté beaucoup, je ne pourrais pas vous dire. Reste que ce 13e album demeure toujours sympathique et clairement, Dominique Rogue et Alexis Dormal n'ont pas perdu la main et continuent de développer cette série-là de belle façon, je crois. Alors ça, c'est chez Dargo. Donc, je rappelle de Dominique Rogue et Alexis Dormal, Pico Bug, tome 13, sur le chemin. Eh bien, voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Je vous rappelle que l'ensemble des émissions et plus sont disponibles sur lavieenbd.com. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.